Le journal, Jacques-Yves Molima.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal Parler. Voici les temps forts de l'actualité. La cité de Saké est tombée sous contrôle des troupes fidèles au général déchu Laurent Kounda Batory après des intenses combats cet après-midi. Cette situation a contraint des centaines de dizaines de personnes de fuir vers la ville de Goma. Les détails dans cette édition du journal Parler. Pendant ce temps, les syndicalistes de l'Office congolais de contrôle OCC conditionnent le retour au travail, entre autres à la libération de leurs collègues arrêtés par la police. Ils sont en arrêt momentané de travail depuis maintenant une semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. La cité de Saké, à une trentaine de kilomètres de Goma, est tombée cet après-midi sous contrôle des éléments de la 81e et 83e brigade fidèle au général déchu Laurent Kounda Batory. Des affrontements à l'arme lourde commencés depuis hier samedi se sont intensifiés ce dimanche dans les territoires de Masisi. Le chef d'état-major, force terrestre, le général de brigade Gabriel Amissi Kumba, arrivé à Goma depuis 7 avant midi, s'est entretenu ce soir avec les responsables de la MONUC au quartier général MONUC Goma. Mais rien n'est sorti de leur entretien. Pendant ce temps, ce sont des dizaines de centaines de personnes qui sont jetées sur la route de l'exil vers Goma et Minova. Jean-Claude Toumba Kamanga.
Selon des déplacés arrivés ce dimanche après-midi à Goma, des escarmouches auraient eu lieu entre Saké et Mubambiro la journée jusqu'au-delà de 14 heures. Elles auraient opposé des éléments avancés de la 81e et de la 83e brigade réunies, fidèles à Laurent Kounda, à ceux de la 11e brigade intégrée qui contrôlait Saké. Selon des fugitifs, ce sont les insurgés qui contrôleraient Saké depuis dimanche après-midi. Selon le porte-parole militaire de la MONUC à Goma, Ajay Dalal, les éléments de la 11e brigade se seraient repliés vers Mubambiro, à 5 km de Saké sur la route de Goma. Toujours selon cette source, entre 600 et 800 soldats insurgés de Kounda auraient pris position autour de Saké. Le commandant des forces terrestres, le général Amissi Kumba, arrivé ce dimanche matin à Goma, a eu une rencontre avec les autorités de la MONUC à la base à Goma, mais il n'a souhaité faire aucune déclaration.
Nous venons de l'apprendre à l'instant que la brigade de la MONUC Nord Kivu a mis en place un dispositif en avant de la ville sur la route entre Saké et Goma pour contenir toute avancée et pour protéger la ville de Goma si nécessaire. En effet, par rapport à ces hostilités, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies signale qu'au moins 15 000 personnes ont été déplacées. Pour l'instant, OCHA et leurs partenaires sont en étude de faisabilité d'une aide d'urgence à ces déplacés. Écoutons le chargé de l'information à OCHA Nord Kivu, Adreux Adel, il est au micro de la radio Kapigoma.
Selon la MONUC qui est sur place, il dit que la ville de Saké est quasiment vide. Il y a des personnes qui se cachent là-bas, mais étant donné la population de la zone là, on peut dire que 15 000 ou même 20 000 personnes ont quitté la région en direction Goma et également en direction Minova au sud Kivu. Il faut toujours surveiller la situation pour savoir si les personnes vont retourner chez eux. Étant donné la situation sécuritaire, on ne pense pas qu'ils vont avoir une amélioration bientôt. Et vu qu'ils ont quitté chez eux très rapidement, sans leurs biens personnels, son matelas et couverture. Nous sommes en train de voir si une réponse rapide en termes d'abri des biens non alimentaires est nécessaire. Mais on n'a pas encore identifié un site de distribution et non plus, on n'a pas pris la décision de faire une distribution. Les discussions sont en cours.
Cette déclaration de chargé de l'information à OCHA a été faite avant que la cité de Saké tombe entre les mains des troupes de Laurent Kounda Batory. Situation humanitaire encore cette fois-ci dans le Grand Nord. Une dizaine de milliers de familles ont quitté leur milieu naturel de vie dans le sud-territoire de Lubero. C'est à la suite des affrontements jeudi dernier entre le FRDC et les Mai Mai. Les deux protagonistes se disputent le contrôle des localités de Luofo et de Miriki. Pour l'instant, ces populations déplacées sont sans assistance humanitaire. Étienne Mouindo.
Près de 10 000 ménages déplacés sont arrivés ces 4 derniers jours dans les cités de Kaïda, Kirumba et Kanyabayonga. Ces déplacés ont fui leur village à la suite des affrontements des mardis et mercredis derniers entre FRDC et Mai Mai dans les localités de Miriki et Luofu. Selon M. Jado Kitaliavosi, responsable de l'ONG Beau Samarité basée à Kirumba, les déplacés, composés essentiellement des femmes, des enfants et des vieux, sont dans des familles d'accueil. Cependant, ils ont besoin de vivre, des vêtements et des couvertures. Jusqu'ici, ils n'ont bénéficié de quelconque aide humanitaire. Information confirmée par l'administrateur de territoire de Lubero, M. Josué Badibanga, qui appelle les ONG et les hommes de bonne volonté de secourir ces déplacés de Miriki et Luofu. L'administrateur du territoire de Lubero ajoute que la situation se normalise progressivement dans les localités de Miriki et Luofu, qui sont sous contrôle des FRDC. Etienne Mwindo, Boutembo, Radio Okapi.
Toujours à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province orientale, au moins 26 000 personnes sont sans abri et vivent sous l'eau dans des pirogues à Isangi, territoire situé à 125 km en aval de Kisangani. Selon l'administrateur de ce territoire, 24 villages au total de son entité sont envahis par des eaux depuis bientôt une dizaine de jours suite aux inondations provoquées par la crue du fleuve Congo et de ses affluents. Il lance à cet effet un SOS aux autorités, aux ONG locales et internationales de leur venir en aide. L'administrateur du territoire Kakwaka Katombe a été joint au téléphone par André Kitenge. Il nous décrit la situation.
L'Isangi est dans l'eau. Il y a plus de 24 villages qui sont dans l'eau, avec plus ou moins 26 000 habitants. Et la lutte n'est pas exhaustive compte tenu du fait que l'inondation vient à pas de tortue. Les gens ne savent pas où aller chier. Tout se fait dans l'eau. Les enfants, les mamans, les papas sont dans le pirogue. Il n'y a même pas un endroit où on peut allumer le feu. Il faut absolument, absolument que les hommes de bonne volonté puissent se liguer et venir en aide à cette population sinistrée et qui ne sait même pas où vouer la tête. Je vous dis sincèrement que si vous voyez, vous pouvez pleurer. Je lance un SOS. Ces organismes-là qui peuvent intervenir le plus tôt possible. Il ne faut pas attendre que les gens meurent pour venir attendre qu'il y ait les épidémies. Au contraire, il faut d'abord la prévention avant toute autre chose.
Entre-temps, le Conseil de sécurité du territoire a mis sur pied un comité de catastrophe sans moyens qui a pour objectif de faire face à cette situation. Contacté à ce sujet pour en savoir plus sur des dispositions utiles, les autorités provinciales sont restées ingéniables ce dimanche. Retour à Kinshasa, rendre le verdict à l'absence des avocats du MLC ne peut pas poser problème sur le plan de droit. Selon les bâtonniers nationaux et avocats près la Cour suprême de justice, Maître Matadi Wamba, le boycott des avocats n'a aucun effet juridique dans l'application des décisions, notamment les verdicts par la Cour suprême de justice. Pour lui, tout s'explique par le fait que les avocats ont participé à ces audiences avant de les sécher. Comme vous le savez, la Cour suprême de justice a promis de rendre l'arrêt sur la requête de l'Union pour la Nation demain lundi 27 novembre. La décision a été prise par le président de cette cour à l'issue de l'audience d'hier à l'absence du collectif des avocats de l'Union pour la Nation. Écoutons le bâtonnier national et avocat après la Cour suprême de justice, Maître Matadi Wamba. Il est joint au téléphone par Guy Maté.
À mon avis, il n'y a pas de conséquences juridiques possibles parce que il arrive qu'une partie qui était au début de l'instruction d'une affaire, que cette partie elle-même ou ses avocats quittent l'audience à un moment donné de l'instruction. L'audience alors continue en l'absence de cette partie-là ou des avocats de cette partie-là. Eh bien, du point de vue de la procédure, comme c'est une procédure de fond, il n'y a aucune incidence. L'affaire continue, l'instruction continue et la décision qui va arriver en ce moment-là, elle est contradictoire.
Qu'est-ce que vous appelez décision contradictoire?
C'est une décision à laquelle vous étiez présente, vous avez présenté vos moyens de défense, mais à un moment donné de l'instruction, pour une raison ou une autre, vous interrompez de comparaître, vous partez et le tribunal poursuit l'instruction de l'affaire. Eh bien, en ce moment-là, l'instruction vous est contradictoire parce que vous avez quitté librement.
Autre chose à présent, les syndicalistes de l'Office congolais des contrôles, direction générale de Kinshasa, exigent entre autres la libération de leur camarade Bibiane Soukidi pour reprendre le travail interrompu depuis une semaine. Selon les délégués syndicaux de cet office, leur collègue avait été appréhendé le 23 novembre par la police dans les installations de l'OCC et conduite au cachot de l'IPEKIN alors qu'elle rendait compte des négociations collectives. Rappelons que cet arrêt momentané de travail est consécutif à deux arrêtés ministériels, l'un nommant un nouveau comité de gestion et l'autre suspendant deux anciens mandataires. Écoutez à ce sujet le délégué syndical Selubanzi Teka au micro de Jeff Ngoy.
Le mercredi 23 le matin, le gouverneur nous avait donné les orientations à suivre quant aux revendications des droits sociaux. Il nous a dit ceci, vous avez le droit de revendiquer vos droits, mais à la seule condition que ces revendications s'effacent dans l'enceinte de l'office. Je vous recommande, moi, gouverneur, de dire aux travailleurs de l'office congolais de contrôle de revendiquer leurs droits. Nous ne sommes pas contre, mais à condition que celle-ci se fasse dans l'enceinte. Et le mercredi, là, à 9h, Maman Souki de Bibiane faisait le compte-rendu de ce que le gouverneur nous a dit. Voilà que vers 9h, 9h30, il y a une Jeep fumée, là, avec des policiers civils suffisamment armés. Ils l'ont cueilli communément. Et pour le moment, des contacts pris, il s'avère que depuis ce jeudi-là, il se trouve incarcéré à l'IPKIN, à l'inspection provisoire de Kinshasa, ancien circo. Les recommandations sont simples, monsieur le journaliste. Nous demandons qu'elle soit libérée, parce qu'elle ne faisait que son travail de délégué syndical. Avant que nous ne reprenions le travail, parce que jusqu'alors, nous ne sommes pas en grève, nous sommes en arrêt momentané de travail.
De son côté, le général Patrick Sabiti, inspecteur provincial de la police à Kinshasa, justifie la présence des policiers dans l'enceinte de l'OCC et évoque la libération de la syndicaliste Bibiane Soukidi après vérification de la véracité des faits retenus à sa charge. Écoutons Patrick Sabiti au micro de Jeff Ngoy.
Et les policiers ont toujours été à l'OCC depuis très longtemps. Je pense que depuis que j'ai pris le commandement de l'inspection provinciale, on a toujours détaché des policiers pour la protection et la garde de du bâtiment de l'OCC. Sur demande des autorités de l'OCC. Donc si les autorités de l'OCC trouvent que la présence des policiers n'est plus nécessaire, nous allons retirer les policiers. L'OCC a une autorité, je crois l'OCC a un ADG qui parle, qui nous écrit au nom de l'OCC. Quant à nous, de la police, nous nous sommes là pour la protection des personnes et des biens, pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public.
Mais que dites-vous de la libération de Bibiane Soukidi qui est à l'IPK?
Oui, si la dame a été arrêtée, c'est qu'il y a des faits qui ont été mis à sa charge. Après vérification, après enquête qui a été ouverte, si on trouve rien, on va le tirer. S'il y a effectivement des faits pour lesquels elle a été reprochée, bon, elle sera transférée à qui de droit.
C'était le général Patrick Sabiti, inspecteur provincial de la police à Kinshasa. La cité de Calémie plongée dans le noir depuis bientôt une semaine et demie. Une équipe d'ingénieurs de la SNEL en provenance de Lubumbashi est arrivée hier samedi à Calémie pour tenter de dépanner le barrage de Bendera situé à 120 km au nord de Calémie. Pendant ce temps, cette situation engendre des conséquences sur la population. L'eau potable manque sur la ville. À cet effet, les autorités sanitaires déploient des équipes à travers la ville chargées de mettre du chlore dans l'eau. François-Xavier Mibé pour le détail.
C'est l'arrivée en renfort des ingénieurs de la SNEL de Lubumbashi qui attire l'attention des populations sur ce qui se passe à Bendera. Ce que l'on croyait être une panne de quelques temps devient une affaire sérieuse pour la SNEL Calémie. Une équipe de techniciens composée d'anciens agents à la retraite est partie depuis une semaine au barrage de Bendera, mais sans succès. 4 jours après, c'est le tour des ingénieurs de Lubumbashi mobilisés pour la circonstance de suivre samedi la route de Bendera. Interrogé sur les causes de la panne, le chef de district de la SNEL parle du régulateur de la centrale devenu rebelle à toute commande. Le chef Baloukou Salomo indique même que la société d'électricité qui dépend d'une seule turbine fonctionne aujourd'hui sans pièce de rechange. De leur côté, les autorités sanitaires et les ONG actives dans les domaines de l'eau et de l'assainissement de l'eau prennent des mesures de précaution. Les unités d'exploration d'eau sont placées le long du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga pour prévenir des cas de choléra. Les autorités civiles, par contre, redoutent, avec la coupure de l'électricité qui perdure, que le prix sur le denrée alimentaire ne grimpe sur le marché. De Calémie, François-Xavier Mibé, Radio Capi.
Dans la province de l'Équateur, la Croix-Rouge Belgique a mis fin à ses activités de réinsertion des enfants associés aux groupes armés. La clôture officielle est intervenue samedi dernier au centre de transit et d'orientation de la Croix-Rouge Belgique à Mbandaka. À cette occasion, des matériels utilisés pour les enfants par les enfants issus des forces et groupes armés dans ce centre ont été remis aux associations qui s'occupent de l'encadrement des enfants vulnérables. Les détails avec Ghislaine Nentobo.
Bon. Crée, armoire, matelas, ustensiles de cuisine ont été remis aux 7 structures œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfance en Mbandaka, notamment celles qui encadrent les enfants sourds, mais oui, les enfants orphelins, les enfants dissociés, pour ne citer que ces exemples-là. Ces matériels permettront à ces différentes associations de continuer dans les conditions acceptables la mission d'encadrement de jeunes vulnérables de la province. Pour rappel, le projet Enfants associés aux forces et groupes armés, financé par la Croix-Rouge Belgique, a été mis en place en Mbandaka en 2004. trois centres de transit et d'orientation avaient été ouverts dans la ville, lesquels viennent de fermer leurs portes. Cependant, le projet Enfants associés aux forces et groupes armés, a confirmé le président provincial de la Croix-Rouge Équateur, se poursuit à travers la province. La Croix-Rouge Équateur s'est réjouie du travail abattu durant deux ans. Selon elle, une soixantaine d'enfants ont été réunifiés avec leurs familles après avoir bénéficié notamment d'une formation psychosociale dans le CTO. Il faut signaler que ces enfants réinsérés dans leur famille seront ensuite soumis à une formation professionnelle, chacun selon l'activité qu'il avait choisie à partir du centre d'hébergement. Mbandaka, Justine Ntobo, Radio Okapi.
Un point sur la page internationale. Les inondations en Somalie ont fait au moins 7 nouvelles victimes, portant le bilan à au moins 96 morts en 4 semaines de pluie incessante, ont annoncé des responsables dimanche à Mogadiscio. Parmi les nouvelles victimes, on dénombre 5 enfants, 3 personnes se sont noyées dans le Middle Sabel où une embarcation a chaviré alors que ses passagers tentaient de fuir la région la plus touchée, ont précisé les responsables. Voilà, complètement terminé ce journal mis en onde par notre confrère Jean-Noël Mokondo. Merci à Emmanuel Imbanda et Jean-Claude Toumba Kamanga pour leur réalisation. Quant à moi, je vous dis merci et je vous retrouve le samedi prochain.